Voilà.
Yeah. C'est pas du vin. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bra.
Bonjour, en 2019, nous allons donner la parole aux philosophes. Non pas parce que ça rime, quoiqu'à la radio c'est rigolo et nous avons bien besoin de rire. Mais surtout, surtout parce que nous avons la nécessité de repenser notre manière d'habiter le monde. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si plusieurs livres, dont le dernier de l'économiste sénégalais Félouine Sarr, arborent ce titre en ce mois de janvier. Habiter le monde, tout un programme, apprendre enfin à cohabiter avec les autres espèces dans cet espace restreint qu'est notre planète Terre. Une planète qui se réchauffe vite, trop vite, comme le constate chaque jour la famille Målgaard. Ils sont pêcheurs au nord de la baie de Disco, au Groenland.
On sent que les températures sont de plus en plus chaudes. Cet été, il n'a plu que trois fois. Avant, il pouvait pleuvoir un mois entier. Avant, il y avait aussi de la glace partout sur ces montagnes autour de nous. Il n'y en a plus.
On
dit que cela est dû au changement climatique, mais on ne veut pas vraiment y croire. Parce qu'on se souvient, par exemple, de l'année 1980, il n'y avait pas eu de glace non plus jusqu'à la fin décembre. Alors on ne croit pas vraiment au réchauffement, mais on observe qu'il y a de moins en moins de glace, ça c'est sûr.
It's lower now.
Un extrait du reportage de Samuel Turpin, une nouvelle étape du projet Humans and Climate Change Stories, dont l'objectif est de suivre 12 familles dans le monde impactées par le changement climatique pendant 10 ans. Vous l'écouterez tout à l'heure. Mais tout d'abord, place aux philosophes. Nous avons rendez-vous dans un grand hôtel parisien avec Dominique Bourg. Il est professeur à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'Université de Lausanne.
C'est pas du vent sur RFI.
Bonjour Dominique Bourg.
Bonjour.
Après une année 2018 marquée par des vagues de chaleur records, des incendies, des sécheresses et des inondations d'une ampleur inédite dans de nombreuses régions du monde, quels vœux adressez-vous à nos auditeurs en 2019 ?
Alors, première chose en fait, c'est que c'est effectivement une année très exceptionnelle, mais je voudrais simplement revenir sur un aspect. C'est la première fois qu'on a des vagues de chaleur du haut au bas d'un hémisphère, en l'occurrence l'hémisphère nord cet été, mais on a la même chose, peut-être pas sur tout l'hémisphère, mais en ce moment, là où nous enregistrons, il y a une canicule terrible en Australie. Donc ça, je voudrais bien rappeler ça. On est en quelque sorte au moment où la crosse de hockey, pour reprendre la figure des températures là, de Mann, eh bien, on est à la sortie du coude. Ça monte et ça va monter plus fort. Si en plus, on a un El Niño en 2019, ça va pas être drôle parce qu'on aura une année encore plus chaude en 2019 qu'elle ne l'a été en 2018, et ça n'est pas impossible. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut souhaiter ? En fait, la destruction du vivant, là, c'est pas ce que je souhaite, mais je prends le constat, la destruction du vivant, la dégradation du climat, la dépression des ressources, tout ça, c'est une violence extrême qu'on fait à la Terre, au vivant, et qu'on se fait à nous-mêmes, et qu'on se fait entre nous. Donc ce que je souhaite, moi, en début d'année 2019, c'est moins de violence. Je pense que vous avez compris aussi l'allusion. On ne fait pas de l'écologie, on ne se remet pas en harmonie avec le vivant. Et entre nous, en insultant, en cassant. C'est absurde, c'est anti-tout.
Ça, c'est un clin d'œil aux gilets jaunes et au mouvement qui se passe actuellement en France ?
Ah bah bien sûr. Alors, encore une fois, ce n'est pas une condamnation des gilets jaunes, parce que gilets jaunes, justement, c'est bien le problème de ce mouvement. Ça renvoie à des choses très, très différentes. Hein. D'un côté, on a un Éric Drouet qui est un fan de tuning. Puis, franchement, je ne pense pas qu'avec ça, on va aller très, très loin. De l'autre côté, on a ces femmes qui ont fait un truc très marrant, là, une sorte de vidéo gilets jaunes, là, qui ont manifesté, d'ailleurs, samedi dernier. Bon enfant, enfin, leur truc est plutôt très, très sympa. Donc, ce mouvement n'a cessé de mélanger les choses. Il est parti de quelque chose d'intéressant. Il est parti de la dénonciation du caractère non écologique de la taxe carbone. Et là, ils ont totalement raison, les gens. Mais il faudrait qu'ils s'appliquent à eux-mêmes la remarque qu'ils ont fait à la mesure de Macron. On ne peut pas se dire pour la démocratie, on ne peut pas se dire pour l'écologie, parce qu'ils l'ont dit, c'est intéressant aussi. Puis il y en a certains qui sont allés manifester le 8 décembre, et puis tolérer cette espèce de montée en puissance de la violence à laquelle on assiste. Je suis désolé, c'est une sacrée contradiction. Alors, vous avez pointé la contradiction de Macron, vous avez raison, je la partage avec vous. Mais pointez les vôtres.
Alors vous dites que 2018 aura été l'année de l'entrée psychologique dans l'anthropocène, c'est-à-dire cette nouvelle ère géologique caractérisée par l'impact des activités humaines sur l'écosystème terrestre.
Oui, je pense que c'est une année charnière, une année clé. Moi, ça fait des années que je répète ça. Bon, c'est que tant qu'on ne voit pas, tant qu'on ne sent pas, tant que ça ne devient pas concret, on bougera peu. Et le jour où les choses commenceront à devenir tangibles pour tout un chacun ou presque, c'est toujours des platistes. Hein. Bon, eh bien là, les gens vont commencer à changer. Et nous tous, on est plus enclins à agir. Et c'est ce qui se passe. On l'a vu avec trois manifestations, hein, j'espère ne pas dire de bêtises, mais 8 septembre, 13 octobre, 8 décembre, on a eu en France des mobilisations massives de 100 à 150 000 personnes pour le climat. Ça ne s'était jamais vu. En décembre aussi, c'est 75 000 personnes à Bruxelles. Ça ne s'est jamais vu. Vous ajoutez à ça la pétition « L'affaire du siècle », où on est pratiquement à 2 millions.
Qui est une pétition, il faut le rappeler, qui met l'État français face à ses responsabilités.
Oui, alors c'est une pétition qui s'inscrit dans une série d'actes judiciaires dénonçant l'incurie, l'inaction des États en matière de climat. Ça a commencé avec l'affaire Urgenda en Hollande, l'affaire Juliana à peu près la même année, qui est partie à peu près la même année aux États-Unis, l'affaire Legari avec un agriculteur au Pakistan, etc. Ça fuse de partout. Hein. Donc ça s'inscrit là, mais surtout c'est les 2 millions en quelques jours, parce qu'en France, pour atteindre un million de signataires, jusqu'alors, c'était plutôt une année.
Alors, dans un contexte où les dirigeants politiques ne brillent pas par leurs ambitions écologiques, on pense évidemment à Trump, mais aussi à Bolsonaro, on pense à l'Autriche, on pense à Matteo Salvini en Italie, ou même à Emmanuel Macron en France.
Alors, franchement, j'en suis désolé, mais ils sont vraiment tous nuls. Bon, alors, à des degrés différents, hein, puis ils nous gratifient des choses quand même qui sont différentes. Bon, Macron, ok, c'est... Mais Macron, c'est pas Bolsonaro, je suis désolé pour certains gilets jaunes. Non, Macron, c'est pas Bolsonaro. Mais Bolsonaro, Matteo Salvini plutôt... Trump, Erdogan, etc. Tous ces gens-là, bon, tous ces populistes, en fait, hein, d'un nouveau style, qui sont plutôt personnellement des gens odieux, ils ont tous, en fait, comme caractéristique, le déni du climat. Hein, depuis que l'extrême droite est associée à la droite classique, est arrivée au pouvoir en Autriche, ce pays est un pays modèle, c'est fini. L'AFD en Allemagne se déclare climato-sceptique. N'allez pas me raconter que Le Pen en France et le Rassemblement National, ce sont des grands écologistes. Et Mélenchon, j'y ai peut-être cru un moment, mais c'est fini. Je veux dire, quand on a ce degré de violence, on ne peut pas parler d'écologie. Il ferait mieux qu'il se la boucle sur le sujet. Donc là, avec ces gens-là, on n'avancera pas d'un iota. Et donc, c'est ça le problème aujourd'hui. On a vraiment une espèce de confrontation entre les terriens qui veulent qu'on ne détruise pas leurs conditions de vie et les cyniques qui y vont. Alors, c'est un mélange de cynisme et de bêtises et d'ignorance.
Alors, vous dites les terriens. Encore faut-il que les gens soient informés et conscience vraiment de ces réalités environnementales dans un contexte où l'accès à l'information est quand même complexe. Il est devenu horizontal. Il y a les réseaux sociaux, il y a les fake news, il y a les théories du complot.
C'est le défi de l'époque dans laquelle on est. Hein. Si vous voulez, quand on avait une information classique avec des médias classiques, etc., hiérarchisés, vérifiés, et puis en même temps les gens avaient à peu près une espèce de fond commun d'information. D'ailleurs, c'est ce qui était une condition de démocratie en fait. Hein. Si chacun a sa propre information, il n'y a plus de démocratie, il n'y a plus de débat. Et aujourd'hui, merci le numérique, c'est effectivement à peu près là où ça nous a mené. C'est une catastrophe. Alors j'espère que c'est un moment critique, qu'on va savoir trouver une régulation, qu'on va réguler tout ça. Mais pour le moment, c'est absolument atroce. Alors, on se prend tout d'un coup, hein, on se prend la raréfaction des matériaux, on se prend, on va se prendre des problèmes d'énergie assez rapides, PIC ou ROI, etc. Bon, et on a une sorte de descente aux enfers de la société. Faut bien voir que finalement aussi, cette violence qu'on voit, ben, c'est aussi un peu peut-être le résultat de 30 ans ou 40 ans de télé, de jeux vidéo, etc., où effectivement on flingue autrui sans problème. Bon, on est dans un effondrement moral. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est vraiment la caractéristique d'un effondrement moral. Et c'est dans ce moment d'effondrement moral qu'on devrait se ressaisir pour essayer effectivement d'éviter, par exemple, ce qu'on appelle une planète étuve, une planète chaude. Alors, ce qui va nous aider, c'est que les choses vont devenir sensibles, elles vont le devenir de plus en plus. Mais c'est vrai que agir sans intelligence, agir sans connaissance, agir sans culture, agir sans réflexion, sans partage entre nous de l'information, sans discussion entre nous de l'information, ben ouais, c'est pas simple, ça va pas être simple.
Alors dans les trois écologies, le psychanalyste Félix Guattari écrivait que nous étions les héritiers d'une triple catastrophe écologique au niveau de l'environnement, évidemment, au niveau de la capacité sociale à produire du sens et au niveau des mentalités individuelles, et que les trois niveaux communiquent et génèrent ce que nous voyons à l'œuvre aujourd'hui, c'est-à-dire un désarroi profond sans issue.
Mais il s'est pas trompé. Il s'est franchement pas trompé. C'est-à-dire qu'effectivement, on se prend la crise du sens, la crise du lien social, avec une, alors c'est pas une crise, avec une montée en puissance des questions écologiques qui est faramineuse, on l'a rappelé pour l'année 2018. Maintenant, il y a des éléments de sens quand même, ça j'y tiens beaucoup. On voit très bien qu'il y a une forme de réancrage dans la nature aujourd'hui qui apparaît. On l'a sous la forme de l'exigence de droit de la nature. On l'a avec... vous avez beaucoup d'études qui nous montrent à quel point la présence du milieu est importante en termes, par exemple, de statistiques de maladies. Si vous prenez une cohorte de gens qui se trouvent dans un milieu où le vivant est présent et une cohorte dans un milieu purement minéral, et bien vous verrez que les maladies ne sont pas les mêmes, que les statistiques de maladies sont beaucoup plus faibles là où les gens ont un contact avec la nature. Par exemple, la sylvothérapie, le soin par les arbres et les forêts, qui est un soin très traditionnel au Japon et auquel on a ajouté des connaissances de médecine plus contemporaine en mêlant les deux. Vous avez l'éco-psychologie, vous avez le biomimétisme, le fait qu'on peut repenser toute l'économie, pensons au livre d'Isabelle Delannoy. Nous, c'est ce qu'on avait fait avec Ansperger dans notre vers une société permacirculaire. C'était une idée voisine. On voit même sur un plan spirituel, on voit Laudato si du pape François, c'est un retour vers la nature, une relecture de la Genèse à partir de ça. On a le retour aujourd'hui du chamanisme, etc. On voit partout la nature redevenir extrêmement présente et comme source de sens, hein, et comme source d'apaisement. Donc, on est en quelque sorte au fond, pour le reste, hein, sur les trois écologies, on est vraiment à ras du sol, et puis en même temps, justement, on respire l'herbe, et puis on commence à remonter.
Oui, alors on commence à remonter, mais dans un contexte, hein, vous le disiez, où la planète se réchauffe, où la biodiversité est dans sa sixième crise d'extinction. Alors, vous dites que ce n'est plus la liberté de produire et de consommer sans entrave qui devrait désormais être au centre de l'action politique, mais la préservation de l'habilité de la planète. Mais ça implique finalement de revoir l'ensemble des politiques publiques ?
De façon très claire, l'habitabilité de la planète, ça doit être notre souci à tous, de continuer à vivre sur Terre. C'est quand même pas rien comme problème. Et c'est ça aujourd'hui notre problème. Je suis désolé, c'est pas le pouvoir d'achat. Mais si on n'a pas une égalité entre nous, si on resserre pas les niveaux, écoutez, si c'est seulement tout sur les mêmes qu'on tape toujours, ce qui s'est passé avec la manière dont ce gouvernement a instauré la taxe, ça marche pas, et c'est normal, les gens ils ont raison de se révolter. Alors ça, je comprends totalement.
Vous voulez dire la manière dont le gouvernement français a mis en place la taxe carbone, qui du coup avait pour conséquence pour les plus pauvres des Français de payer leur transport en voiture plus cher.
Alors, non seulement cette conséquence, mais il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Les plus pauvres, comme vous dites, ils savent très bien qu'il y a des problèmes économiques, etc. Ils savent très bien qu'il y a des problèmes écologiques. Ils savent très bien qu'en fait, ça va être de plus en plus difficile. Et en même temps, on leur tape dessus. Ils savaient très bien qu'on allait leur taper dessus plus fort chaque année. Parce qu'une taxe carbone, ça n'a d'intérêt que si ça monte, de telle sorte que ça fasse changer les comportements.
Sans taxer le kérosène des avions ou le transport maritime.
Mais ça, ils l'ont bien vu aussi. Prenons pas les gens pour des cons. Ils voient les contradictions. Ils les ont vues. Et donc, encore une fois, si vous voulez, on a une espèce d'opposition entre deux modèles possibles aujourd'hui. Soit on a le modèle Bolsonaro-Trump, c'est très clair. On flatte les pauvres en flattant une volonté de violence, de faire suer plus celui qui a encore moins que vous, l'immigré, etc. Et ça marche. Ça marche au Brésil, ça marche aux États-Unis. Et on a l'autre scénario possible, non. On revient à un sens de la justice. Et en fait, c'est clair, on a un gros problème. On va devoir faire évoluer nos flux matériels. Mais évidemment, il faut que les plus riches, ceux qui ont accès aux flux les plus importants, commencent par donner l'exemple. Et puis il faut que petit à petit, l'accès aux ressources entre les plus hauts revenus et les plus bas revenus, c'est simplement, ça doit se rapprocher, et donc il faut vraiment resserrer drastiquement les revenus. On est dans une passe complètement nouvelle de l'histoire de l'humanité. Qu'on me dise pas que ça s'est pas fait, c'est pas vrai, c'est toutes les peuples dits premiers avaient tous des revenus resserrés, je veux dire. On est dans une situation nouvelle, on va pas s'en sortir. On a ces deux modèles, une démocratie exigeante, où chacun doit comprendre les choses, donc là on est loin, hein. Chacun doit les comprendre, mais il n'est pas question que certains ne fassent aucun effort et que les autres fassent tous les efforts. Ça, c'est le modèle que je propose. Mais on ne le fera pas en 2 ans, c'est évident. On le fera en 10 ans, 15 ans. Mais sans ça, on ne s'en sortira pas. On a l'autre modèle où tout le monde sera perdant à la fin.
Enfin, quoi qu'il en soit, il faut faire accepter les décisions politiques qui s'imposent, hein, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, rompre avec le modèle énergétique, mettre fin au financement des énergies fossiles par les banques, changer de modèle agricole, changer de modèle alimentaire, et tout ça, ça veut dire qu'il faut prendre des positions politiques courageuses. Et selon le physicien Denis Meadows, vous savez, le co-auteur du rapport du Club de Rome sur les limites de la croissance publié déjà en 1972, eh bien, Denis Meadows disait finalement... les problèmes engendrés par le changement climatique et la pollution exigent de déployer des mesures extrêmement coûteuses à court terme, mais dont les effets ne se mesureront pas avant des décennies. Donc aucun homme politique ou parti ne remportera une élection avec un tel programme.
C'est pourquoi, en fait, je pense contrairement à lui qu'on peut le faire. À une condition, ce qui est apparemment difficilement imaginable pour quelqu'un outre-Atlantique, c'est resserrer les revenus.
Mais comment on diminue? Parce qu'aujourd'hui, il y a une inégalité de revenus colossale.
Et elle s'est aggravée ces dernières années. Alors moins en Europe qu'aux États-Unis. Hein, les chiffres là, de Lucas Chancel sont très clairs. Les inégalités ont moins explosé en Europe qu'aux États-Unis. Ben, voilà, c'est le programme qu'on propose. Et ce programme, c'est le seul pour faire accepter à tout le monde de changer sa manière de vivre. Si vous voulez, si, pour dire des choses un peu bêtement comme ça, mais si effectivement les gens vont que les gens les plus riches roulent en petite voiture. Moi, je me souviens d'une grande entreprise dans les années 90 dont le directeur de développement durable avait imposé à tous les cadres qu'ils se déplacent dans des petites voitures. L'exemple Banyan n'a pas été suivi. Mais si ça, vous le voyez, si ceux qui ont le plus montrent l'exemple, ceux qui ont le moins, puis on va les aider, on ne va pas les laisser dans le moins, parce qu'il faut bien s'entendre. On a des dépenses superfétatoires, mais le fait que chacun se nourrisse, qu'il puisse se loger en dehors du froid, etc., évidemment qu'on ne va pas revenir là-dessus. Mais donc, si on sait faire ça, alors on va le proposer, nous, c'est le programme qu'on va proposer. Bon,
alors quand vous dites c'est le programme qu'on va proposer, c'est parce qu'il faut le dire, vous vous lancez en politique, vous, le philosophe.
Oui, alors c'est une folie sans doute, mais enfin, je l'assume. Effectivement, après avoir réfléchi pendant des décennies en termes de philosophie politique, je me suis associé à Delphine Bateau, qui a sorti hier son manifeste de l'écologie intégrale. Je suis dans cette mouvance, et avec elle et avec d'autres, bien sûr, et on espère qu'on sera nombreux, on veut reconstruire une offre politique écologique différente.
Alors, vous dites réduire les inégalités de revenus. Ça se passe par quoi, par exemple, concrètement? Comment est-ce qu'on fait pour réduire ces inégalités?
On fait comme Roosevelt, ça passe par la fiscalité, ça ne peut pas passer par autre chose. Alors, ce qu'il faut bien voir, encore une fois, c'est que si on le faisait dans un monde physiquement constant, on n'aurait aucune chance de le faire. On va le faire dans un monde qui va devenir de plus en plus difficile à vivre, qui va être confronté à des pénuries, et qui vont aller crescendo. Il est sûr que si je ne savais pas ça, ce n'est pas ce que je proposerais. Mais là, vu le monde dans lequel on entre, vu la difficulté, soit on est solidaire, soit on est intelligent, soit on se dit ben, il nous faut à chacun un standard matériel, mais on n'a pas besoin du plus gros phallus que le voisin forcément. Et soit on fait un programme comme ça. Alors c'est pas un programme non plus égalitariste, ça veut simplement dire que les différences vont être réduites. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est qu'en fait la richesse c'est quoi? C'est des flux de matière et des flux d'énergie qui détruisent la planète, qui détruisent le vivant. Qu'est-ce qui me permet de fonder vis-à-vis d'autrui que j'ai beaucoup plus de pouvoir de détruire la vie et les conditions de vie sur Terre que vous autres? Qu'est-ce que je peux donner comme raison?
Et alors du coup, vous proposez un impôt sur la fortune verte.
Ah bah oui, ça c'est la première des choses, ICF vert. Et ça je l'avais dit à France Inter, on ne va pas revenir là-dessus. C'est une évidence. En France, on ne peut commencer à rediscuter que si on accepte ça. Et puis que si on accepte que le jeu démocratique s'ouvre. D'ailleurs, nous, on ne va pas faire un parti, on va arriver aux élections avec des propositions toutes faites. On a un cadre. Le cadre, il est très ferme intellectuellement. Vous n'êtes pas dedans, vous n'êtes pas avec nous. Mais en revanche, si vous acceptez notre cadre, on construit ensemble. Moi, je ne sais pas forcément sur tout sujet ce qu'il faut faire.
Alors, ensemble, dans un endroit d'ailleurs, que vous appelez la canopée.
Alors, je sais pas, pourquoi pas, ça serait joli. Mais en tout cas, l'idée, oui, c'est alors on va structurer, hein, on reconstruit. Mais notre idée, c'est déjà pas d'aller seul aux élections européennes, d'aller avec une plateforme où d'autres pourraient s'associer à nous. Et puis, alors, les élections européennes, on va proposer aussi un cadre. Mais après, l'idée aujourd'hui, on fait plus des lois dans son coin. On ouvre un processus de fabrication, plus avec des allers-retours, de la loi. Si vous regardez par exemple la manière dont les Suédois ont instauré leur taxe carbone, c'était 10 ans de négociation.
Est-ce qu'on ne peut pas imaginer que par exemple ce type de discussion ait lieu dans le cadre du grand débat national qui démarre en France mi-janvier?
Ah ben, le grand débat national, puis c'est la CNDP, c'est sérieux la CNDP qui va construire. Ce qui nous manque.
Commission nationale du débat public.
La Commission nationale du débat public présidée par Chantal Jouanneau. Donc c'est évidemment une commission tout à fait sérieuse. Mais elle ne peut pas faire ce que ne veut pas faire le pouvoir public. Ce qui aurait été intéressant, c'est que le président de la République nous raconta que pour lui, effectivement, le grand débat allait nourrir sa réforme constitutionnelle. Ça aurait été intéressant comme idée. Bah, il peut peut-être changer encore.
On fait des émissions pour ça. Peut-être qu'il nous écoute. Et alors, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour mobiliser les foules? Parce que jusque-là, les partis écologistes n'ont pas vraiment réussi à fédérer beaucoup d'électeurs.
Bah, les partis écologistes, si vous voulez, ils n'ont jamais été très clairs. On ne savait pas trop bien ce qu'ils voulaient. C'est partait dans tous les sens. Et puis, ils étaient dans une optique union de la gauche, en fait, avec un partage des rôles très bizarre. Donc l'essentiel, c'était le PS. Et puis, alors c'était moins vrai vers la fin. Mais, et puis l'écologie, comme un supplément d'âme, était prise en charge par le petit parti frère, qui était le parti écologiste. Non, tout, on ne veut rien de tout ça. Nous, ça ne nous intéresse pas, ces trucs-là. On tourne cette page.
Et donc, vous pensez que malgré ce que l'on a dit sur le manque de culture ou de compréhension de tous ces enjeux, vous allez réussir à attirer des électeurs?
On peut rêver. En tout cas, on va essayer. Mais alors, c'est vrai que la grosse difficulté, c'est qu'on a guère le temps. Et qu'en plus, des choses devraient se faire à l'échelle internationale. Ce qu'on apporte, nous, c'est l'idée de dire « Ok, on ne sait pas ce qui va arriver à l'échelle internationale. » Si on ne bouge pas nous, c'est sûr que ça ne bougera pas non plus ailleurs. Première chose. Mais en revanche, on a une partie à faire, nous. Et donc l'idée, elle est très claire dans le livre de Delphine Bateau, c'est l'idée de reconstruire un État résilient. Pensez à ce qui s'est passé en Grèce cet été. Le néolibéralisme a fait que il n'y a plus de pompiers. Non, n'exagérons pas, mais ils n'étaient pas assez nombreux. Pas assez outillés. Pour des raisons budgétaires, on a fermé les services météo, ce qui fait que les canadaires que les Grecs ont empruntés aux autres pays européens ont été inutiles, parce qu'un canadaire qui ne connaît pas à l'avance le sens du vent, son eau, elle ne va pas là où il veut la mettre, il ne sait pas où elle va aller. En plus, on avait une privatisation des côtes avec des grillages, des gens sont morts soit grillés, soit asphyxiés sur des grillages. C'est ça le néolibéralisme. Nous, non, on ne veut pas de ça. Hein. Moi, écoutez, en tant que philosophe, je parie sur l'intelligence de mes concitoyens. Maintenant, ça fait 25 siècles qu'on essaie, et pourquoi pas.
Alors, peu de gens ont réellement compris, malgré tout, la portée de la crise environnementale que nous traversons, ou ont envie de la comprendre, parce qu'en fait, la question, elle est simple, c'est qui veut se projeter dans un futur qui sera peut-être bien pire que le présent?
Le futur qui devient bien pire que le présent, les gens l'expérimentent d'année en année. Et ils vont l'expérimenter d'année en année. Donc maintenant, ce genre de figure rhétorique, si vous voulez, il va falloir qu'ils surmontent un peu. Hein, ils vont être dedans. Moi, je vous rappelle qu'une chose, la photosynthèse, elle s'arrête à 5 degrés. À partir de 30, elle se porte un peu moins bien, surtout pour les céréales, et elle s'arrête entre 40 et 45. Météo France, le scénario avec une température moyenne au monde de 3,7, ça donnerait dans l'est de la France des pointes à 50-55 degrés. Ça voudrait donc dire que les jours à 35, que les jours à 40, que les jours à 45 sont très très nombreux. Vous le voulez ça?
Et ça, c'est uniquement pour la France. Nous, sur RFI, on s'adresse par exemple aux pays africains.
Alors, c'est pire. Soyons très clairs. Dans toutes les parties du monde où on a, une grande humidité avec de la chaleur, c'est ce qu'on appelle un climat tropical, quand vous passez, pour le moment, c'est 30, 30, 31, 32, et ça ne bouge pas, 30, 31, 32, si on passe à 34, 35, attention, là, ce sont les capacités de régulation thermique du corps humain qui sont saturées. Et on meurt. Vous le voulez?
Est-ce que, si on prend vraiment du recul, finalement, on ne s'est pas berné depuis les débuts de la révolution industrielle sur ce qu'est la notion de progrès pour l'humanité? Et est-ce que ce n'est pas cette notion-là? D'ailleurs, le mot a quasiment disparu aujourd'hui des discours. On ne parle plus de progrès, on parle d'innovation. Mais est-ce que c'est cette notion de progrès pour l'humanité qu'il faut essayer de repenser collectivement?
Ah ben c'est archi clair. Là, j'ai plus le temps de développer, mais en fait, la notion de progrès, elle était conçue comme une forme d'arrachement à la nature. Vous avez le résultat. On peut en crever. Donc franchement, c'était pas génial. Il faut enfin, si vous voulez, et c'est ça ce qu'on défend avec l'idée d'écologie intégrale, hein, c'est que compte tenu de la passe dans laquelle nous entrons, c'est tout qui doit être repensé. Et évidemment, la notion de progrès héritée, de la fin 16e, début 17e, avec Bacon, Descartes, etc. Après, on a la querelle des anciens et modernes qui va faire que ça se répand dans toute la société, et puis c'est vraiment assez diffus au 19e siècle. Non, cette notion de progrès, on ne peut pas la garder. Ça, c'est le transhumanisme.
Merci beaucoup Dominique Bourg. On peut donc vous lire dans la postface du manifeste de Delphine Bateau, Écologie intégrale, publié cette semaine aux éditions du Rocher. Restez sur RFI juste après une pause musicale. Nous vous emmènerons au Groenland, où l'impact des changements climatiques ouvre de nouvelles perspectives économiques, pas toujours réjouissantes.
C'est pas du vent.
On a tous un grand cheminement à faire dans nos vies et on est en train d'inventer les uns et les autres le monde de demain.
Le magazine de l'environnement sur RFI.
Il n'y a rien de plus beau que d'aider l'humanité dans sa progression. Ça donne sens à notre vie, tout ça.
C'est pas du vent sur RFI et c'est une bonne idée car nous allons vous faire partager une nouvelle étape du projet Humans and Climate Change Stories dont l'objectif est de suivre 12 familles dans le monde impactées par le changement climatique durant 10 ans. Samuel Turpin nous emmène au Groenland où la fonte des glaces ouvre de nouvelles opportunités économiques pour un territoire à la recherche de son indépendance. Mais à quel risque ? À vous de juger grâce à cette immersion polaire avec la famille Molgaard, pêcheur au nord de la baie de Disco au Groenland.
Oui, j'ai apparemment après des nanones sur ce terrain. I can remember last time when there was all over the ice.
Je me rappelle la dernière fois que toute la baie ici à Torshukatak était complètement gelée, c'était en 1994. Depuis cette date, la banquise n'est plus vraiment la même. Elle n'est pas aussi épaisse, peut-être 10 ou 20 cm seulement. Au printemps, il n'y a parfois même plus de glace. C'est devenu instable.
It's unstable. Yes. In this summer,
on sent que les températures sont de plus en plus chaudes. Cet été, il n'a plu que 3 fois. Avant, il pouvait pleuvoir un mois entier. Avant, il y avait aussi de la glace partout sur ces montagnes autour de nous. Il n'y en a plus. On dit que cela est dû au changement climatique, mais on ne veut pas vraiment y croire. Parce qu'on se souvient, par exemple, de l'année 1980, il n'y avait pas eu de glace non plus jusqu'à la fin décembre. Alors, on ne croit pas vraiment au réchauffement. Mais on observe qu'il y a de moins en moins de glace, ça c'est sûr.
It's lower now.
Un iceberg qui s'effondre dans la mer, le son du dérèglement climatique dans le Grand Nord. Les glaciers en veulent de plus en plus. Les pêcheurs sont obligés de les faire dériver en les poussant avec leurs bateaux pour libérer les zones de pêche. À l'été 2018, on enregistrait près de 30% de moins de surface de banquise. comparé au relevé d'il y a 40 ans. En 2012, c'était 45%. Le sud de l'île pourrait à ce rythme être libre de glace dans 20 ans. Nous sommes dans le fjord de Torshukatak, au nord de la baie de Disco. Immersion polaire avec une famille de pêcheurs, Nils Molgaard, Annie sa femme, et ses deux filles, Mali et Erna Tashiak. Il est 3 heures du matin, c'est grand jour, cap au large pour 15 heures de pêche.
From October to end of April.
De fin octobre à fin avril, pêcher peut être vraiment dangereux. C'est difficile pour les pêcheurs, surtout à cette période. Il fait très froid, il y a beaucoup de vent, beaucoup de glace sur la mer. Et si le bateau n'est pas en bon état, ça peut être très dangereux. L'hiver, quand les pêcheurs n'ont plus de chiens, de traîneaux ou de snowmobiles, ils ne peuvent pas aller à la pêche. Ils doivent alors emprunter de l'argent à la communauté. Et certains d'entre eux ne sont pas jeunes. Les plus âgés n'ont plus l'énergie. Ils doivent arrêter. Comme mon père, il a dû arrêter cette année. Cette année, il n'y a pas beaucoup de flétans. Alors à l'usine de poissons du village, ils ne prennent pas beaucoup de main-d'œuvre. Mais je ne crois pas que le flétan va totalement disparaître. Parfois, on entend que les courants marins chauds poussent les poissons vers des eaux plus profondes ou plus froides, qu'ils quittent le fjord. Comme tu as vu, Nils, mon mari, lui a décidé de pêcher la morue. Mais le kilogramme de morue est acheté 8 couronnes, 3 fois moins que le flétan. Ça m'inquiète quand même. Il y a des usines dans certains villages qui ont fermé, comme à Niak-Konarchouk, un village de 300 habitants. Il y a peu, ils étaient encore 600 personnes. La moitié du village a déménagé pour aller vivre ailleurs et trouver du travail. Ça pourrait arriver ici. Il se pourrait que la pêche, notre unique moyen de subsistance, disparaisse et que le village meure.
La fonte des glaces permet de pêcher 7 à 8 mois dans l'année, contre 4, il y a encore 15 ans. Et Nils ne s'en cache pas, c'est une aubaine. Et pour les autorités également, qui encouragent les pêcheurs à moderniser leur équipement. Le secteur représente 80% des exportations et fait vivre près de la moitié des Groenlandais. En 2016, la compagnie de pêche étatique Royal Greenland engrangeait un bénéfice de 954 millions d'euros. Les autorités avaient levé les quotas, malgré les recommandations de l'organisme scientifique chargé de surveillance. La pêche, c'est le cordon ombilical pour ces villages côtiers. Les hommes pêchent et les femmes travaillent à l'usine locale. Une véritable dépendance, avec deux risques au bout de la ligne. La surpêche et le surendettement, alors que l'avenir des ressources halieutiques est rendu incertain par le dérèglement climatique. Nils le dit, si le poisson venait à manquer, il ne résisterait pas deux saisons. Il ne sait rien faire d'autre. Rencontre avec Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans le sud de Paris. Ses travaux sur l'Arctique ont été primés. Elle est aussi coprésidente du groupe de travail du GIEC depuis 2015.
Bonjour, je suis Valérie Masson-Delmotte. Je vous en prie. Du côté des océans, donc, il y a des conséquences multiples. Il y a le recul de la banquise, donc, qui va changer la luminosité, les nutriments, la salinité, parce que la formation de banquise rejette du sel dans les océans. On a également donc, des changements dans la quantité d'oxygène contenue dans les eaux. On a des changements dans la chimie des eaux, en particulier par un processus d'acidification, la conséquence des rejets de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, et une partie rentre dans les océans et change la chimie des eaux de mer. Donc on s'attend à des bouleversements sur les écosystèmes marins dans les régions arctiques à grande échelle. On s'attend à des déplacements d'espèces des régions tempérées vers les régions polaires et donc un risque aussi de perte d'un certain nombre d'espèces spécifiques aux régions polaires. Il y a cette difficulté aussi et cet enjeu à avoir des activités de pêche qui soient relativement flexibles pour finalement tirer parti des opportunités en n'étant pas piégé sur l'exploitation dédiée à certaines espèces et avec parfois aussi des risques de surpêche en limite de position pour les zones de répartition de certaines espèces.
Et quel est le lien entre la fonte de la calotte polaire et le dérèglement climatique en Europe, par exemple ?
À l'avenir, l'évolution de la calotte du Groenland va peser sur l'évolution du niveau des mers planétaires. La contribution du Groenland à la montée du niveau des mers a accéléré sur, disons, les derniers 30 ans. C'est une contribution importante, quasiment 1 mm de montée du niveau des mers sur les 3 mm par an mesurés aujourd'hui. Un deuxième facteur important, c'est l'évolution de la circulation océanique. Les travaux existants aujourd'hui montrent effectivement que le flux d'eau qui va venir de la fonte des glaces du Groenland peut jouer un rôle important dans le risque de rupture dans cette circulation océanique profonde, pas pour ce siècle, pas dans des scénarios où on arrive à maîtriser le réchauffement climatique à 1,5 degré ou 2 degrés, mais dans des scénarios de poursuite sur la trajectoire actuelle d'émissions de gaz à effet de serre qui pourraient donner lieu à un réchauffement de l'ordre de 3 degrés ou plus. Donc ça modulerait à long terme les caractéristiques du climat du Groenland. Ça aurait aussi des conséquences pour le climat européen à travers les conséquences sur les vents. C'est un enjeu important pour toutes les régions littorales, pour toutes les régions de basse terre, toutes les grandes régions de delta qui sont particulièrement exposées aux conséquences de la montée du niveau des mers. Et puis, ça pourrait aussi avoir des conséquences majeures sur la distribution des pluies tropicales, en particulier sur les moussons d'Amérique du Sud et d'Afrique de l'Ouest.
Quelle est aujourd'hui la perception du dérèglement climatique par les Groenlandais ?
Ce qui est montré clairement, c'est que les Groenlandais revendiquent l'héritage de leur culture inuite et le fait de pouvoir s'adapter à tout, quelle que soit la variabilité du climat et quelles que soient les évolutions des technologies. Passer du traîneau à chien au scooter de neige, passer de repères traditionnels à l'utilisation du GPS, passer du harpon au fusil, et partout dans toutes les communautés, l'utilisation d'Internet de manière massive. Voilà, donc ils revendiquent en fait d'être extrêmement flexibles, de pouvoir s'adapter rapidement, et ils l'ont démontré d'ailleurs, hein. Je pense qu'ils détestent le fait d'être présentés comme des victimes du réchauffement climatique, en particulier parce qu'ils sont dans un processus de conquête d'une indépendance, d'une autonomie politique, et donc ils revendiquent de prendre en main leur destin et de ne pas être des victimes. Au départ, je pense que la question du changement climatique, ils ne l'ont vu qu'à l'angle des médias et d'une vision du monde qui venait d'autres régions du monde. Aujourd'hui, il y a vraiment cette perception que les conditions climatiques changent, sans forcément que ce soit formulé avec les mêmes termes que les nôtres. D'ailleurs, le terme en groenlandais qui décrit le climat, c'est « sila ». Et « sila », ça veut dire aussi le souffle de vie, la relation intime qu'on a chacun d'entre nous avec le reste du monde. Il n'y a pas forcément l'idée que c'est une tendance qui va se poursuivre sur le long terme. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve en Europe et ailleurs. Beaucoup de personnes pensent que finalement, ce qu'on voit, ça ressemble à des cycles naturels, et qu'on va revenir en arrière.
Des Groenlandais qui ne sont pas victimes du dérèglement climatique, c'est assez loin de nos clichés. Et si les autorités poussent autant le secteur de la pêche, c'est parce qu'il y a un enjeu géopolitique majeur. Le Groenland est un territoire autonome du Danemark qui aspire à son indépendance depuis 40 ans. Et le dérèglement climatique pourrait offrir au Groenland le boost économique dont il a besoin. La fonte des glaces libère en effet des voies maritimes, du pétrole et des terres rares. Mais ce sont évidemment des secteurs à risque pour une population qui reste très connectée avec la nature. Un vrai dilemme. Les autorités misent donc aujourd'hui sur la pêche et le tourisme. Le tourisme, une opportunité de reconversion pour des pêcheurs comme Palouk Kreutzmann. Il a ouvert son agence de tour opérateur en 2015.
Nous ne sommes pas en panique à propos du changement climatique. Nous ne nous considérons pas comme des victimes. Les Inuits se sont toujours adaptés au climat. Pour moi, c'est juste un cycle naturel. On verra. Le Groenland cherche un boost économique. Peut-être que ce changement offre de nouvelles opportunités. Avec la fonte des glaces, le passage du Nord-Ouest est presque ouvert et va libérer les routes maritimes. C'est peut-être pas si mal. Il y a du bon et du mauvais. Mais sur l'exploitation du pétrole, Je ne suis pas trop d'accord. S'il y a une catastrophe en mer, ça va endommager toute la baie et tuer des espèces. Ils devraient trouver d'autres énergies comme le solaire, l'éolien, au lieu de se contenter du pétrole. À la fin, l'argent, même si tu en as, ça ne remplit pas. L'année dernière, j'ai emmené un client qui venait prospecter pour des industries minières. Avant, il travaillait sur le site de Black Angel, ici à Marmolik. Les compagnies semblent vouloir lancer de nouvelles activités. Ils auront besoin de main-d'œuvre. Ça fera du travail ici. Certains d'entre nous ont déjà de l'expérience, donc on se tient prêt. Mais les gens se rappellent aussi les mauvais côtés. Du point de vue économique, ça peut être bien, mais sur le long terme, non.
Long term, it's not good. Now the government is very aware.
Mais le gouvernement est maintenant vigilant sur le respect de l'environnement. Il a instauré de nouvelles règles, mais ça reste politique. On ne sait jamais au final. Les politiques changent toujours d'avis. J'espère qu'ils vont décider de ne pas se lancer à fond dans l'extraction de minerais. Ils ont refusé récemment des compagnies qui voulaient exploiter l'uranium. Donc c'est pas mal. J'espère que ça durera. D'autres veulent d'abord étudier l'impact qu'il y aura sur l'environnement, les communautés et la pêche. C'est bien aussi d'équilibrer les choses et de ne pas dépendre uniquement de la pêche. C'est pour cela qu'ils veulent développer le tourisme. On va voir ce que nos voisins autour feront pour s'inspirer. On a d'autres options aussi. Au sud du Groenland, on fait aujourd'hui l'agriculture. Il y a une semaine, je naviguais près de Nuuksuaq. C'était tout vert. On se disait qu'on pourrait faire pousser nos légumes là-bas, au lieu de tout emporter par cargo. Surtout l'hiver. On doit parfois attendre des semaines avant que les bateaux ne passent la glace. On pourrait élever des poules, des poulets, avoir des œufs. Peut-être que bientôt, on mangera du poulet arctique.
La population in Earth is still growing fast.
Nous sommes de plus en plus sur Terre. On a besoin de plus en plus de nourriture, d'eau, d'énergie. On va voir comment ça va évoluer. Et j'espère qu'on va vraiment penser à tout cela avant de prendre des décisions.
Yeah, I hope they will have to think about the decision very hardly.
Pour la première fois à l'été 2017, des feux ont ravagé la toundra au Groenland et un glissement de terrain a provoqué un tsunami sur la presqu'île d'Oumanak. Pas de déni donc, mais du pragmatisme, la certitude de pouvoir s'adapter. C'est bien le sentiment qui prédomine face au dérèglement climatique. Retour avec la famille Molgaard dans leur village de Kekertak, 110 habitants, une école dont Annie est l'institutrice, une église et un pilaire Swissok. C'est le petit supermarché local, ravitaillé par cargo, quand les glaces l'autorisent.
Le village est très silencieux. Pas de route, pas de voiture. La principale activité, c'est la pêche. Un peu de chasse. Ces dernières années, beaucoup de familles ont quitté le village pour rejoindre une ville, faire autre chose ou étudier. Ils ne sont jamais revenus.
They never come back. There are not so many facilities to live.
On n'a pas grand-chose ici, mais on a ce qu'il faut pour vivre. De l'eau potable avec une centrale de désalinisation de l'eau de mer. On fait fondre aussi la glace des icebergs. On a l'électricité avec des gros générateurs à fuel. Un pilaire Swissok, le petit supermarché. On a une école, une église, une maison communale. Et les chiens.
And dogs.
Quand il y avait beaucoup de glace, tout le monde avait des chiens. Mais depuis que la glace est devenue instable, la plupart des gens ont abandonné les traîneaux pour acheter une snowmobile. Quand tu ne peux pas leur donner de poisson pour les nourrir, par exemple en hiver, tu dois leur acheter de la nourriture. Ça coûte cher et ça demande beaucoup de travail.
Yes. You want some amuse? But these smells. You want to try?
Yes.
Amuse tocatine.
De la graisse de beluga, du phoque, du poisson congelé, coupé en petits copeaux que l'on laisse fondre sur la langue, avec du pain et un peu de graisse. Fin de dégustation, je rejoins Mali et Anatashiak, les deux filles cadettes de la famille. Mali a 17 ans. Elle vient de passer un semestre d'études à Copenhague grâce à une bourse. L'apprentissage de langues et de nouvelles compétences sont largement encouragés. Et ce sont les jeunes Groenlandaises qui en profitent majoritairement. Certains garçons, eux, voient encore un avenir dans les métiers traditionnels.
Je m'appelle Maali Molga. J'ai 17 ans. Je suis partie à l'âge de 13 ans pour aller étudier. Mon meilleur ami, c'est mon smartphone. J'en ai un depuis l'âge de 10 ans. Pour tchatcher avec mes amis, pour écouter de la musique et pour regarder des séries vidéo. Américaines surtout. Je rigole beaucoup avec ma sœur Anastasiak qui habite ici chez mes parents. Elle a 25 ans.
In 2006, she started with the work at Peace Factory.
Elle a commencé à travailler à l'usine de poissons en 2006 quand elle est revenue au village. Pour le moment, elle ne travaille pas car il n'y a pas suffisamment de travail. Il n'y a pas suffisamment de flûte en cette année. Elle veut partir étudier au Danemark à la rentrée prochaine. Ce qu'elle souhaite, c'est diriger l'usine de poissons. Alors elle a besoin d'apprendre les langues, le danois et l'anglais. Au Groenland, les hommes sont très majoritairement des pêcheurs. Ils ont peu d'éducation. Et ça peut être un problème pour les filles qui ont suivi des études. En fait, on n'a pas beaucoup de choix pour trouver un compagnon. Nous, nous ne sommes pas vraiment intéressés par les garçons du village. Et c'est pas facile pour nous.
Partir, rester, un trouble identitaire entre deux mondes et l'appel d'une société vue à travers Internet. Un trouble identitaire notamment responsable de près de 20% de tentatives de suicide parmi les moins de 25 ans. C'est le triste record mondial. Niels et d'autres pêcheurs me confient qu'ils ont le blues eux aussi. Peu d'entre eux ont suivi des études. Leur connaissance, c'est la lecture de la glace, de la mer, la pêche et la chasse. C'est l'héritage des ancêtres. Et aujourd'hui, ils ne savent plus à qui transmettre ce savoir. Les jeunes s'en détournent de plus en plus et ils ont l'impression d'être inutiles au sein du foyer.
Si vous avez envie de voir la famille Molgaard en train de pêcher ou de rêver à travers des images du Groenland, rendez-vous sur le site de humansclimatechange.com. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. Allez, encore une fois, bonne année et soyez à l'écoute. Demain, nous irons voguer au nord de Cotonou, au Bénin, sur le lac Nokoué. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à demain, même planète, même heure.